Cœur de l'info. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriac au micro, Anne Albertson à mes côtés, et bienvenue à cette édition du mardi 21 avril 2015. Au sommaire ce matin.
Le Mali, au moins une personne a été tuée hier dans une attaque contre la MINUSMA.
Naufrage au large de la Libye, on compte désormais 800 morts.
Pendant ce temps, le groupe État islamique revendique une nouvelle attaque en Libye.
Gros plan sur les activités de Boko Haram au Cameroun.
Les enfants, déjà à partir de leur bas âge, peuvent être déconnectés de la société humaine et donc peut-être plus aptes à mener des activités avec les groupes extrémistes dans l'avenir.
Et ici aux États-Unis, la deuxième phase du procès sur les attentats du marathon de Boston doit s'ouvrir aujourd'hui.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Attaque d'un convoi de la mission de l'ONU au Mali. Au moins une personne a été tuée hier dans le nord du pays. Une attaque similaire avait déjà fait deux morts vendredi. Les faits avec Eddy Issango.
D'après les communiqués de la MINUSMA, un convoi des fournisseurs civils a été attaqué hier par des assaillants à 30 km à l'ouest de Gao. Selon les textes, au moins un chauffeur a été assassiné et son camion a été brûlé par la suite. La MINUSMA s'est dit outrée par ces crimes crapuleux touchant des civils innocents. Vendredi, un convoi de la MINUSMA a été attaqué à 15 km de Gao. Deux chauffeurs avaient été tués et un autre civil blessé par balle. Une attaque similaire avait été menée le 15 avril contre un camp de l'ONU à Antsongo. Des civils avaient été tués et une vingtaine blessés, dont 9 soldats nigériens. Cette attaque suicide a été revendiquée par les groupes djihadistes de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. L'Algérie, qui assure la médiation dans la crise malienne, a annoncé qu'un accord de paix avec les rebelles du Nord va être signé le 15 mai à Bamako. Cependant, la convention des mouvements de l'Azawad n'a toujours pas paraffé les documents.
À l'approche de la présidentielle au Togo, le président de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest met en garde les Togolais. Toute la communauté internationale vous regarde. Le président ghanéen John Dramani Mahama s'est ainsi exprimé lors d'une visite hier à Lomé, après avoir rencontré le président sortant, Faure Gnassingbé, qui brigue un troisième quinquennat, les quatre autres candidats, dont le plus populaire Jean-Pierre Fabre, et les chefs des différents partis. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Au Burundi, le gouvernement met en garde à l'approche de la présidentielle de juin. Il pourrait faire intervenir l'armée en cas de débordement dans d'éventuelles manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Je suis prêt à accompagner les autres acteurs de la sécurité pour résister aux détracteurs de la paix, a lancé le ministre de la Défense hier, rapporte l'AFP.
Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera investi samedi, candidat de la majorité au pouvoir pour l'élection présidentielle d'octobre, dont il est le grand favori. C'est ce qu'a annoncé hier soir le porte-parole de la convention d'investiture citée par l'AFP.
En Guinée, la peine de mort a été requise contre 15 des 26 prévenus au procès pour le meurtre l'année dernière de 8 membres d'une mission de sensibilisation contre l'Ebola dans le sud du pays. Félix Yepassis Zembrou.
Le procès se tient en audience foraine à Nzérékouré depuis le 23 mars. Les débats vont s'achever par les plaidoiries de la défense d'ici la fin de la semaine. Le procureur William Fernandez a demandé la peine de mort pour 15 des prévenus et la relaxe des 11 autres pour délits non constitués. Ils étaient poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat, association de malfaiteurs, pillage, coups et blessures volontaires. Le 16 septembre 2014, 8 membres d'une équipe de sensibilisation contre l'Ebola, dont 3 employés de médias, avaient été tués par des habitants qui niaient la réalité du virus à Womé, dans le sud-est du pays. En fin 2013, l'épidémie de fièvre Ebola s'était déclarée en Guinée forestière avant de se propager au Libéria et en Sierra Leone. En novembre 2014, le président Alpha Condé avait justifié le recours à la force contre des populations récalcitrantes qui niaient l'existence du virus ou rejetaient les mesures sanitaires à cause de leurs coutumes.
Et retour sur les élections au Soudan qui se sont tenues la semaine dernière. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège estiment que le pays n'a pas été capable d'organiser ces élections de façon libre et crédible, marquée par une faible participation. Les élections présidentielles et parlementaires nationales et régionales se sont déroulées de lundi à jeudi. Et le président Omar el-Béchir et son parti sont largement assurés de l'emporter.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bilan du naufrage d'un chalutier dimanche au large de la Libye. On compte désormais 800 morts. La plupart des 27 survivants arrivés en Sicile vers minuit, heure locale, ont pu être interrogés. D'après leur témoignage, il y avait un peu plus de 800 personnes à bord, dont des enfants de 10-12 ans. Il y avait des Syriens, environ 150 Érythréens, des Somaliens. Ils étaient partis samedi à 8h de Tripoli. En réaction à cette tragédie, la Commission européenne a présenté hier 10 propositions d'action pour lutter contre le trafic de migrants et empêcher les candidats à l'immigration de risquer leur vie pour rejoindre l'Italie. Idriss Fall.
Ces 10 points seront discutés lors du sommet extraordinaire des dirigeants de l'Union européenne prévu jeudi à Bruxelles. Il s'agira entre autres de renforcer les opérations de contrôle et de sauvetage, dans le même temps solliciter l'aide des pays voisins de la Libye pour bloquer les routes utilisées par les migrants. Le président français, François Hollande, pointe du doigt les trafiquants.
Nous devons là aussi renforcer le nombre de bateaux qui sont dans le cadre d'une opération qui s'appelle Triton. Donc plus de bateaux, plus de survols par des avions et puis également une lutte beaucoup plus intense par rapport au trafic. Parce que ceux qui mettent des personnes sur des bateaux, ce sont des trafiquants, même ce sont des terroristes, parce qu'ils savent parfaitement que ces bateaux sont pourris et qu'ils vont même les détruire en pleine mer et mettre des centaines de personnes en danger, en l'occurrence là, en danger de mort.
L'Italie travaille avec Malte pour tenter de sauver deux autres embarcations en difficulté au large de la Libye. Zaïd Raad al-Hussein, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonce les politiques cyniques de l'Union européenne et accuse Bruxelles de transformer la Méditerranée en un vaste cimetière.
Le groupe État islamique revendique une nouvelle attaque en Libye. Il s'agit cette fois d'une bombe qui a explosé la nuit passée près de l'ambassade d'Espagne à Tripoli. La charge explosive était dissimulée près du mur extérieur de l'ambassade, ce qui a causé des dégâts matériels. En revanche, il n'y a pas eu de victimes, signale une source sécuritaire citée par l'AFP.
Procès de Mohamed Morsi en Égypte. L'ancien président islamiste pourrait écoper de la peine de mort aujourd'hui pour incitation au meurtre de manifestants. Il s'agit du premier verdict attendu contre le dirigeant islamiste destitué en 2013 par l'actuel président Abdel Fattah el-Sissi.
Conflit au Yémen, les frappes aériennes de la coalition saoudienne ont touché hier des caches d'armes des rebelles houthis à Sanaa, la capitale. Les explosions subséquentes ont fait au moins 19 morts et de nombreux blessés. Pour sa part, la marine de guerre américaine a dépêché un autre navire au large du Yémen. Les précisions de Michel Joseph.
Dimanche, nuages de fumée montés des environs de Sanaa hier après les raids des pays de la coalition appuyant le gouvernement du président Abed Rabo Mansour Hadi. Des témoins affirment que les explosions d'hier étaient les plus puissantes depuis le début, le 26 mars, des frappes aériennes contre les rebelles houthis qu'appuie l'Iran. C'était comme si les portes de l'enfer s'étaient ouvertes tout d'un coup, rapporte un témoin que cite l'agence Associated Press. Une des bombes d'hier est tombée près de l'ambassade iranienne, suscitant une vive condamnation de la part de Téhéran. Dimanche, l'US Navy, la marine de guerre américaine, envoyait vers la mer d'Arabie un porte-avions qui croisait dans le golfe Persique. L'USS Theodore Roosevelt et son escorte vont rejoindre plusieurs autres bâtiments de guerre américains au large du Yémen pour des opérations de sécurité maritime, a indiqué le porte-parole du Pentagone, le colonel Steve Warren. Ce dernier a démenti les informations selon lesquelles ces navires auraient pour mission d'intercepter des cargaisons d'armes iraniennes destinées aux rebelles houthis.
À noter que la France, qui affiche son soutien à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite face aux rebelles chiites houthis, dénonce une entreprise de déstabilisation de l'Iran au Yémen.
Enfin, ici aux États-Unis, la deuxième phase du procès sur les attentats du marathon de Boston doit s'ouvrir aujourd'hui. En ligne de mire pour Djohar Tsarnaïev, la peine de mort. Plusieurs de ses victimes ont pourtant fait savoir qu'elles n'étaient pas favorables à cette sentence, préférant la réclusion à perpétuité. L'ancien étudiant de 21 ans a été reconnu coupable de 30 chefs d'accusation retenus contre lui. Pour obtenir la peine capitale contre ce jeune musulman d'origine tchétchène, l'accusation va devoir convaincre les 12 jurés de l'existence de facteurs aggravants, tels le choix du lieu, le manque de remords de Tsarnaïev, la vulnérabilité de certaines victimes ou encore la cruauté de ses attentats. La défense, à l'inverse, va plaider les circonstances atténuantes et devrait revenir sur son enfance déracinée, son jeune âge, son absence d'antécédents judiciaires et surtout l'emprise de son frère aîné, Tamerlan, auto-radicalisé, qui, selon elle, était le cerveau de cette attaque qui a fait 3 morts et 264 blessés le 15 avril 2013.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Camille Grosdidier.
GDF Suez a annoncé lundi qu'une nouvelle découverte de gaz naturel vient d'être réalisée dans le bassin d'Ilizi, dans le sud-est de l'Algérie. Un test de production a donné lieu à un débit de 175 000 mètres cubes par jour de gaz naturel, indique GDF Suez dans un communiqué. D'autres travaux devraient permettre d'évaluer plus précisément l'étendue de la découverte. Sud-Est Ilizi est le deuxième projet de GDF Suez en Algérie, après le projet Touat qui devrait entrer en production en 2017. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire achète 2 avions. Dans un communiqué, le constructeur canadien Bombardier a annoncé qu'Air Côte d'Ivoire a converti des options sur 2 avions de ligne en commande ferme. Air Côte d'Ivoire dessert 22 destinations en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La compagnie aérienne a transporté environ 400 000 passagers en 2014 et elle espère en transporter 600 000 en 2015. Et puis, reprise à New York lundi, des négociations sur le TAFTA, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Des dizaines d'experts de la Commission européenne et de l'administration Obama participent jusqu'à vendredi 24 avril à cette 9e série de pourparlers sur le traité. Le TAFTA prévoit entre autres la création d'un méga marché de quelque 800 millions de personnes entre l'Europe et les États-Unis à travers l'harmonisation des réglementations. Les droits de douane seraient supprimés, les formalités administratives simplifiées et les restrictions à l'investissement réduites.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Camille. On passe au sport avec Bagué Sikoura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
Football, match retour de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, on aura ce soir les matchs retour entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Paris avait été battu à domicile 3-1. Quant au Bayern, il reçoit le Porto, qu'il avait aussi battu 3-1.
Et du football contre Ebola.
Oui, les légendes du football Zinedine Zidane et Ronaldo ont rassemblé hier près de 35 000 spectateurs au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne pour la 12e édition du match contre la pauvreté. Cette fois-ci, il s'agit de la lutte contre le virus Ebola. Zidane et Ronaldo sont des ambassadeurs de bonne volonté du PNUD.
Un Éthiopien remporte le marathon de Boston.
Oui, l'Éthiopien Lelisa Denisa a remporté lundi le marathon de Boston en 2h09 minutes 17. L'Éthiopien de 25 ans, déjà vainqueur de l'édition 2013, a devancé son compatriote Yeman Adan Segaï. Et Morgane, pour terminer, le basketball, les play-offs continuent.
Hier soir, les Bucks de Milwaukee ont perdu face à Chicago 82-91. Chicago, qui avait déjà remporté la première confrontation samedi. New Orleans a perdu contre les Golden State Warriors 87-97.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du mardi 21 avril 2015. Place au dossier du jour, le phénomène Boko Haram continue d'avoir un impact catastrophique sur le Cameroun. En plus de l'afflux des réfugiés et du déplacement des populations locales, les incursions du groupe islamiste nigérian affectent sérieusement une situation socio-économique déjà précaire dans le nord et l'extrême nord de ce pays. Christopher Fomugno, directeur Afrique du National Democratic Institute et président de la fondation Portons son nom, y a récemment séjourné, notamment à Maroua, capitale de l'extrême nord camerounais. Au micro de Timothée Donangmaï, voici son témoignage.
J'ai rencontré des populations, j'ai parlé avec les enfants, notamment j'ai visité ce centre pour l'enfance à Maroua où se trouvent près de 80 enfants qui avaient été récupérés par les forces armées camerounaises en novembre 2014 lors d'une intervention dans la ville d'Amchedi. Ça m'a permis de voir comment les enfants, déjà à partir de leur bas âge, peuvent être déconnectés de la société humaine, ce qui renforce effectivement cette appréhension qu'on les préparer pour être déconnecté de la vie sociale et donc peut-être plus apte à mener des activités avec les groupes extrémistes dans l'avenir.
Qu'est-ce que vous avez constaté comme effort au plan local pour justement mettre les populations camerounaises en garde contre l'idéologie de Boko Haram?
J'ai reçu beaucoup de jeunes leaders de la société civile qui sont venus de tous les départements de l'extrême nord du Cameroun, me retrouver à Maroua. On a échangé avec eux, ils sont en train de mener des activités sur le terrain, dans les écoles, des séminaires, des conférences pour susciter l'adhésion des jeunes à l'éducation et à la vie normale et pour éviter à ce qu'ils ne soient tentés par l'idéologie extrémiste. J'ai visité beaucoup de lycées où j'ai fait des dons au nom de la Fondation Fomugno, qui est une fondation dont le siège est à Bamenda, dans le nord-ouest Cameroun. Je tenais à travers ce geste renforcer le message à la jeunesse camerounaise et notamment dans cette partie du pays, que l'éducation porte et que c'est important de rester discipliné, de rester à l'école, de bien étudier parce que c'est comme ça qu'on peut forger son avenir. C'est pas en comptant sur les groupes comme Boko Haram ou d'autres groupes extrémistes parce que ça ne paye pas à la longue. C'est une force destructive et il faut rester focalisé sur l'éducation et sur l'école.
Il faut dire qu'au plan de l'éducation, l'extrême nord du Cameroun est encore à la traîne par rapport au reste de la nation.
Effectivement, j'ai constaté que puisque je suis monté dans l'extrême nord avec beaucoup de compatriotes venus de Yaoundé, de Douala et même de Bamenda qui étaient un peu surpris de la condition de vie dans cette partie du pays. Et je me suis dit qu'effectivement, la crise Boko Haram est venue exacerber la situation difficile que vivent les populations dans cette partie du pays. Et je me dis qu'il faudra que les Camerounais soient sensibilisés sur le drame de Boko Haram pour qu'on soit mieux préparés à gérer les conséquences négatives de cette crise une fois qu'on aurait réussi à éliminer la menace Boko Haram sur le plan militaire ou sur le plan purement sécuritaire. Donc, il y a des dégâts qui ont été commis sur le plan économique, sur le social. Il faudra du temps pour ramener ces populations à la vie normale. Et nous devrons beaucoup investi. L'État, comme la société civile, a ramené une certaine normalité dans la vie dans cette partie du pays.
Christopher Fomugno, directeur Afrique du National Democratic Institute et président de la fondation Fomugno.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Le président ghanéen John Mahama était hier à Lomé. Le président en exercice de la CDAO est allé discuter avec les candidats engagés dans la course à la présidentielle et l'institution qui organise le scrutin, des préoccupations des uns et des autres autour de l'élection. Le point à Lomé avec notre correspondante Kayi Lawson.
En moins d'un mois, le président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, John Mahama, a séjourné par deux fois au Togo. Dans le cadre de l'élection présidentielle, l'émissaire de la communauté sous-régionale a discuté hier à Lomé avec les candidats. Au centre des débats, les problèmes qui émaillent le processus électoral. Jerry Tama, candidat à la présidentielle.
On a passé en revue des préoccupations qui sont sérieuses et qui se recoupent entre les quatre candidats. Il y a trois types de préoccupations. La première concerne le bulletin de vote. La deuxième préoccupation concerne le vote anticipé des forces armées. Et puis la troisième préoccupation concerne le logiciel succès. Vous savez que ce logiciel pose beaucoup de problèmes. Donc ça a été les trois grandes préoccupations. Il y a bien entendu la question de l'authentification des bulletins, la traçabilité de ces bulletins-là.
Après les candidats, John Mahama a conversé avec des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À la suite de cette rencontre, le président de la CENI a insisté sur l'impartialité de l'institution organisatrice de l'élection, Tafa Tabiou.
La CENI s'efforce de préparer un terrain égal pour tous les candidats. Nous sommes arbitres, il est vrai, mais nous souhaitons rester à la hauteur d'un arbitre juste. Et pour cela, nous demandons aussi l'indulgence des compétiteurs. Nous avons besoin de leur compréhension. La CENI est disposée à jouer franc jeu.
Les différentes préoccupations passées en revue, le président en exercice de la CEDEAO a appelé les candidats au respect des textes électoraux. John Mahama.
We want to restate that the Electoral Commission shall be the only body authorized constitutionally to announce results.
La CEDEAO tient à insister sur le fait que la CENI est la seule autorité habilitée à déclarer les résultats. Donc, nous invitons tous les candidats, tous les partis politiques à éviter de proclamer quelques résultats que ce soit, fût-il parcellaire. La CENI est la seule autorité en charge de la compilation et de la déclaration des résultats. Donc, nous invitons tout le monde à respecter ce principe. Comme ça s'est passé au Nigeria déjà, où les élections ont été paisibles, sans le moindre problème, nous souhaitons vraiment, nous espérons que le cas soit se répéter ici au Togo.
We hope that the elections here in Togo are also going to be as peaceful.
Rappelons que c'est suite à une recommandation de la CEDEAO émise lors de la visite du président John Mahama le 24 mars dernier que le scrutin a été reporté de 10 jours alors qu'il était initialement prévu pour le 15 avril. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Après une longue suspension, le procès en appel des présumés assassins du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, reprend ce mardi devant la haute cour militaire à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'audience en chambre foraine aura lieu à la prison centrale de Makala. Les parties civiles avaient introduit une requête d'inconstitutionnalité des actes posés par la haute cour militaire auprès de la Cour suprême de justice. Alors, pour rappel, Floribert Chebeya a été tué en juin 2010. Son corps a été retrouvé dans la périphérie de Kinshasa alors qu'il avait la veille rendez-vous avec le général John Numbi, alors numéro 1 de la police congolaise. De Kinshasa, un reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre radio partenaire.
Après une longue enquête préjuridictionnelle, l'affaire a été portée devant la cour militaire de Kinshasa Gombe, condamnant ainsi à la peine de mort le colonel Daniel Mukalai et ses co-accusés. La défense accuse le parti civil de retarder la procédure après que l'affaire ait été portée en appel. Maître Didier Dimina, avocat de la défense.
Chaque parti a la liberté de présenter ses moyens quand la cour lui en donne l'occasion. Mais lorsqu'on revient sur les mêmes histoires pendant plusieurs séances, il y a des prévenus qui sont en détention, qui attendent leur sort, qui attendent que leur cause soit jugée. Il y en a qui viennent avec des questions sur lesquelles on s'est déjà prononcé à plusieurs reprises. Il n'y a plus rien de nouveau. Ça devient un abus de droit. De toutes les façons, la haute cour a été trop large en accordant la parole, je dirais presque indéfiniment.
La haute cour a bien dit qu'elle ne peut pas aller d'une manière précipitée puisqu'il s'agit de vies humaines qu'il faut préserver.
Oui, justement, c'est pour cela qu'il ne fallait pas en abuser. Parce que si on revient sous les mêmes histoires 40 fois, il ne faut pas abuser de la parole accordée aux uns et aux autres. Il faut aider la cour à dire les droits et les bons droits et non pas à distraire la cour avec des faits par moments qui n'ont rien à voir avec des préventions en voulant chercher à impliquer des gens qui n'ont rien à voir avec ces procès, des faits qui n'ont rien à voir avec ces procès. À cette allure-là, on n'allait pas s'en sortir. Il est donc de bon droit que la cour ait arrêté l'instruction pour qu'elle prenne ce dossier en délibéré comme elle l'a fait et rende sa décision dans les délais.
Les partis civils disent s'en tenir à la procédure afin d'éviter que les trois policiers en fuite, dont Paul Milambwe, détenu au Sénégal, ne fassent tierce opposition une fois condamnés. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, avocat de l'une des partis civils.
Nous avons voulu purifier la procédure en amont pour qu'en aval, cette procédure qui a été menée de manière consciente afin qu'elle profite aux prévenus, que déjà le trou qui pouvait profiter aux prévenus soit bouché. Et nous avons fait notre devoir et que maintenant, quand la justice congolaise a appris que de l'autre côté de la justice sénégalaise, il y a des poursuites ouvertes à charge de Milambwe, cette justice s'est précipitée à rendre un arrêt définitif d'incompétence, pensant qu'ainsi on pouvait rendre service à John Numbi. Mais je pense que c'était sans connaître que John Numbi ne peut pas se prévaloir du principe selon lequel non bis in idem.
Les partis civils avaient sollicité de la Cour suprême de justice d'examiner les actes posés par la haute cour militaire. Kinshasa, Cyril Milando, Top Congo FM pour la Voix de l'Amérique.
À Brazzaville, ce mardi, il devrait comparaître devant le Conseil supérieur de la liberté de communication Guy Milex Bondy, journaliste et éditeur de l'organe privé indépendant Voix du Peuple. C'est suite à la publication de deux articles dont la teneur n'a semble-t-il pas plu aux autorités congolaises. Cher Robin Norcil.
Monsieur Mbonzi ne mâche pas ses mots. La liberté de la presse est menacée en République du Congo. Il dit ne pas comprendre le mobile de cette convocation dont il a demandé le report afin de mieux préparer sa défense. Il attend une réponse du CSLC.
Le Conseil supérieur de la liberté de communication pointe d'un doigt accusateur deux articles. Il s'agit notamment d'une plainte que le colonel Marcel Nsou a déposée par le biais de ses avocats au palais des congrès, donc devant les deux chambres du Parlement, contre le président Denis Sassou Nguesso pour haute trahison. Cette plainte a d'ailleurs fait l'occasion d'une conférence de presse au courant de la semaine dernière, tenue par ses avocats. Et donc, je ne sais pas si on reproche au journal La Voix du Peuple d'avoir publié intégralement cette plainte assortie de quelques photos de morts lors de l'attaque de son domicile. Deuxièmement, il y a un autre article qui est incriminé. Il s'agit d'un article écrit par les journalistes de La Voix du Peuple où nous avons fait état de la santé du chef d'état-major général qui, selon nos sources, serait tombé à Kinshasa au cours, je pense, d'une réunion. La rue parlait déjà d'empoisonnement. Le Conseil supérieur de la liberté de communication nous reproche de l'avoir fait.
Joint dans la capitale congolaise, le responsable du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvuo, n'a de son côté pas caché sa surprise devant ce qu'il qualifie d'agitation inutile de la part de l'éditeur de La Voix du Peuple, un journal contre lequel, dit-il, aucune menace n'a été proférée.
Il y a deux faits très importants pour nous résumer. Premièrement, de gros mensonges produits par La Voix du Peuple sur un prétendu empoisonnement du chef d'état-major général de l'armée congolaise qui serait au soin en Inde. Et le deuxième, tout ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait l'étalage de tous ces cadavres qui sortent la pudeur publique et nous voulons qu'ils viennent prouver qu'effectivement le chef d'état-major général a été empoisonné. Et deuxièmement, nous expliquer pourquoi l'étalage de ces cadavres, dans quel objectif politique, dans quel objectif culturel, dans quel objectif humain peut-il nous avoir produit de telles images dont on n'a pas besoin et qui suscitent dans nos familles, nous sommes Africains, des émotions dont on n'a pas besoin.
Est-ce que la voix du peuple est le seul organe à avoir publié de telles images?
Aujourd'hui, oui. À l'époque où les événements s'étaient passés dans l'actualité, les journaux, à cette époque-là, avaient produit des images, ça s'est passé très bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'actualité. Pourquoi les avoir produits? Nous voulons savoir pourquoi.
Philippe Mvuo, du CSLC à Brazzaville. Son entretien avec VOA Afrique peut être suivi dans son intégralité sur voaafrique.com, de même que les déclarations de Guimilex Monzi, éditeur du journal La Voix du Peuple.
Morgane Diriac au micro, Anne Albertson à mes côtés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info.